la conviction se répandit que Paul VI aurait modifié la doctrine traditionnelle de l'Église sur le contrôle des naissances, aussi parce que le planning familial était présenté presque partout comme une nécessité du monde contemporain et la pilule anticonception comme un instrument de libération de la femme. Entre 1966 et 68, Paul VI sembla hésiter avant de prendre une décision réfléchie. Finalement, par l'encyclique Humanae Vitae, contrairement à l'avis de la majorité des experts qu'il avait consultés, le pape réaffirma la position traditionnelle de l'Église sur la contraception artificielle. Peu de jours après, le 30 juillet 1968, avec le titre « Contre l'encyclique du pape Paul », le New York Times publia un appel signé par plus de 200 théologiens qui invitaient les catholiques à désobéir à l'encyclique de Paul VI. C'était du jamais vu dans l'histoire longue et tourmentée de l'Église. Mais l'effet exceptionnel, c'est que la contestation provient cette fois non seulement des théologiens et des prêtres, mais également de quelques épiscopats, parmi lesquels, in primis, l'épiscopat belge, dirigé par le cardinal Sunens. Un groupe de protagonistes du concile opposé à l'encyclique de Paul VI, parmi lesquels Sunens, Alfrink, Heenen, Döpfner, König et d'autres, s'est réuni à Essen, en Allemagne, pour organiser une opposition à ce document. Et le 9 septembre 68, au cours du Katholikentag de Essen, en présence du légat pontifical, le cardinal Testa, une résolution pour la révision de l'encyclique fut votée avec une majorité écrasante. La gravité du cas Humanae Vitae est confirmée par une donnée qui concerne la personne même du Paul VI. Au cours des 10 années qui suivirent ce document, le pontife, presque traumatisé par une contestation qui provenait de certaines figures qui durant les conciles lui avaient été les plus proches, ne publia plus aucune encyclique, après en avoir publié 7 entre 64 et 68. Mais le cardinal Sunens ne trahissait pas le concile, mais en proposait la réalisation. En effet, il était le prélat auquel Paul VI avait concédé un privilège sans précédent lorsque le 23 juin 1963, quelques jours après son élection, il avait volé à ses côtés à la fenêtre du palais apostolique, le présentant à la foule réunie place Saint-Pierre. C'était le jeune cardinal de Bruxelles qui, au lendemain de son élévation à la pourpre, était accouru à Rome pour suggérer au pape Jean XXIII de donner une empreinte pastorale au concile. C'était le modérateur suprême du concile, l'homme choisi pour conduire les 4 modérateurs du concile, donc une position clé qu'il aurait occupée pendant 3 ans. Le cardinal Sunens était une icône du concile Vatican II. Et ce même cardinal Sunens était celui qui avait soulevé le problème du contrôle des naissances, prononçant en plein basilique Saint-Pierre les mots « Ne répétons pas les procès à Galilée ». Eh bien, 50 ans sont passés depuis le jour où Sunens prononça cette phrase. Et si depuis lors, au plan théorique, l'Église n'a pas modifié sa doctrine, au plan de la praxis pastorale, le vainqueur de l'affrontement semble être semble n'être pas le pape Paul VI, mais le cardinal Sunens, car la praxis pastorale autorisa ces méthodes contraceptives qu'Humane Vitae interdisait, et les autorisa au nom de Gaudium et Spes et de tous les nouveaux textes moraux qui se référaient à ces documents. Dans les universités et les séminaires pontificaux, les textes de référence furent ceux du père Haring, considéré comme le père de la théologie morale moderne, et ces textes remplaçaient l'objectivité de la loi morale par la personne, entendue comme volonté autour d'un projet, volonté privée de tout lien normatif, immergée dans le contexte historique et culturel. Et puisque le sexe fait partie intégrante de la personne, il a revendiqué le rôle de la sexualité, qualifié de fonction primaire de la croissance personnelle. Et il rappelait l'enseignement du Concile Vatican II du Gaudium et Spes, selon lequel c'est seulement dans les rapports dialogiques avec l'autre que la personne humaine se réalise. Il citait à ses propos les concepts fondé sur le numéro 24 de Gaudium et Spes, qui dit que j'ai besoin de l'autre pour être moi-même. Dans les cadres de la relation sexuelle, l'homme se connaît et se réalise comme immergé dans le monde, et ce qu'il a en commun avec les autres hommes n'est pas une nature humaine stable, mais le fait de devenir, d'après les théoriciens de la nouvelle morale, mais le fait de devenir dans le monde et dans l'histoire. Donc l'homme n'a pas une nature qui le détermine, mais se réalise en tant qu'autocompréhension. Cependant, pour se connaître, il doit connaître le monde dans lequel il est plongé. Il s'autoconnaît à travers du monde, à l'intérieur d'un horizon historique et culturel. Donc la nature humaine s'identifie avec l'histoire, cette histoire dont l'homme est un fragment. Les normes morales sont dissoutes et le monde devient le critère ultime de connaissance, de la connaissance de la morale. Quelle est la conséquence de cela? La conséquence est un rapport nouveau entre l'Église et le monde. Depuis son avènement, le christianisme a opposé la vérité de l'Évangile au monde. Le monde, selon la théologie de l'histoire chrétienne, est le champ de bataille entre les fidèles du Christ et les adeptes de Satan. Et Satan est le prince de ce monde, entendant le monde comme les complexes de normes et d'habitudes qui s'opposent au christianisme. La lutte entre l'esprit de l'Évangile et celui du monde durera jusqu'à la fin du temps. Connaîtra des alternances, mais s'achèvera immanquablement par la victoire finale du Christ. Et dans l'histoire, bien sûr, il y a eu des époques où le Christ a vaincu le monde, comme dans le cadre de la civilisation chrétienne médiévale, mais la Révolution française a inauguré une ère dans laquelle le monde a semblé prévaloir sur l'Église. Sur l'Église. Mais les problèmes, c'est exactement ce problème du rapport entre l'Église et le monde, car ou bien l'Église lutte pour convertir le monde, ou bien si l'Église ne lutte pas pour convertir le monde, c'est le monde qui arrive à mondaniser l'Église. Et le monde moderne est celui qui a son événement fondateur dans la Révolution française. Les théoriciens communistes Antonio Gramsci résume l'itinéraire de la modernité dans la formule de la philosophie de la praxis. La philosophie de la praxis, écrit Gramsci dans ce cahier de la prison, la philosophie de la praxis présuppose la Renaissance et la Réforme, la philosophie allemande et la Révolution française, le libéralisme laïque et l'historicisme, la philosophie de la praxis est le couronnement de tout ce mouvement de réforme intellectuelle et morale. Elle correspond au rapport réforme protestante plus révolution française. Eh bien, cette philosophie de la praxis de Gramsci a ses origines dans les thèses sur Feuerbach de Karl Marx. Et dans une thèse, la deuxième glosse de Marx à Feuerbach, et il y a écrit que c'est dans la praxis que l'homme doit démontrer la vérité de sa pensée. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est une question purement scolastique. Eh bien, cette thèse, la thèse du primat de la praxis, constitue le retournement de la philosophie spéculative. Selon la philosophie traditionnelle, il existe un ordre objectif et immuable des vérités et des valeurs morales antérieures à notre raison, et il est du devoir de la raison de le connaître pour ensuite conformer les comportements à cet ordre. Chez Marx, en revanche, l'expérience historique et pratique est prise comme vérification de la conception du monde. Le primat de l'action remplace le primat de la contemplation. Eh bien, c'est sur ce terrain qu'a lieu la rencontre entre l'Église et le monde. Déjà au cours des années du modernisme, Édouard Leroy, un philosophe français moderniste, avait affirmé que la religion, comme la morale, est essentiellement pratique. Ce qui est vrai est ce qui est vécu. Ce qui est vrai est ce qui est vécu. Ce que l'on réalise, ce qu'on est capable de devenir. Donc la pastorale est la doctrine, on sait qu'elle a de dynamique et de féconde. Et alors, on peut lire la thèse de Marx en la transposant sur le plan religieux. Marx dit, c'est dans la praxis que le philosophe doit démontrer la vérité de sa pensée. Et la nouvelle théologie dit, c'est dans la praxis pastorale que le catholique doit démontrer la vérité de sa doctrine. Eh bien, à mon avis, cette thèse est implicite dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, et aussi peut-être dans le discours Gaudium et Mater Ecclesia, du pape Jean XXIII, qui inaugura le Concile Vatican II. Car dans ses discours solennels, Jean XXIII attribua au Concile qui s'ouvrait alors cette note spécifique, son caractère pastoral.